Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures au carrefour assez accidentogène, il est vrai, de l'info et de l'humour. 2 heures où la bonne humeur la plus bruyante,
Samba !
Mais oui, la Samba !
Samba ! Côtoie le journalisme le plus rigoureux avec un mot d'ordre, la clarté de l'information. Clarté qui vaut aussi pour les points météo de Céline Dacosta, toujours plus précis.
La moyenne cet après-midi, 13 à 17 degrés du nord au sud. Non, plus calme et lumineux pour la moitié sud avec des températures bien douces. Ça, c'est pour la moitié nord. 13 à 17, c'est pour la moitié sud. Pour la moitié nord, c'est un peu plus frais. M'en mêle les pinceaux. Là, c'est clair.
Oui, c'est très très clair. Heureusement, de vous les copains, c'est aussi les explications. Toujours claires, elles, de Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui, avant le match décisif de Ligue des Champions ce soir, PSG-Manchester, revient sur l'histoire du logo du PSG. Saviez-vous notamment à quoi correspond le berceau sur l'emblème du club parisien? Non? Eh bien, écoutez Dalméda.
Merci d'écouter Europe 1 en ce mercredi 6 mars. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 6 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Une intervention du RAID dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne hier après l'agression de 2 surveillants par un homme et sa compagne. Celle-ci est décédée après l'assaut. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. Carlos Ghosn, sur le point d'être libéré, le tribunal de Tokyo attendait le versement de la caution de 8 millions d'euros. Et puis le PSG en position de force ce soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester United. On y revient évidemment avec Jérôme Lacroix dans le journal des sports.
Europe 1.
3 personnes étaient hier soir en garde à vue après l'agression de 2 surveillants par un détenu et sa compagne à la prison. Je vous le disais, en titre de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Cette compagne est décédée après l'assaut du RAID. Le détenu de 27 ans a été condamné à 30 ans de réclusion pour enlèvement, séquestration suivi de mort. La victime était un octogénaire survivant des camps de concentration. Écoutez les précisions du procureur de la République de Paris, Rémy Hetz, qui a expliqué hier soir que le détenu voulait venger l'auteur des attentats de Strasbourg, Chérif Chekat.
Il est ressorti très vite que le détenu, en se jetant sur les surveillants pénitentiaires, avait crié « Allah Akbar », qu'il disait vouloir venger Chérif Chekat, individu mis en cause dans l'attentat commis à Strasbourg le 11 décembre 2018, et qu'il indiquait être porteur d'une ceinture d'explosifs, être prêt à s'en servir. Après une tentative de négociation, le RAID intervenait, les personnes ayant fait connaître leur refus de se rendre. À l'issue de l'assaut, le détenu a été interpellé. Il présente des blessures sans grande gravité et il est, à l'heure où je vous parle, hospitalisé. Sa compagne, elle, est décédée des suites de ses blessures. L'enquête ne fait que débuter. 3 gardes à vue, pour le moment, sont en cours. Et je vous tiendrai, bien sûr, régulièrement informé des suites de ces investigations.
Le procureur Rémy Hetz avec Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Et selon nos informations, les policiers du RAID ont été frappés par la détermination du détenu et de sa compagne. Les messages de leurs proches n'ont eu aucun effet. Suite à cette nouvelle agression, un mouvement social est annoncé dès ce matin par le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière qui a appelé au blocage total de tous les établissements.
Un témoignage absolument glaçant recueilli par notre envoyé spécial en Syrie, Didier François.
Il a rencontré Dorothée Klein, la femme de Jean-Michel Klein, qui avait fait le chant de la propagande qui accompagnait la vidéo de revendication des attentats du 13 novembre à Paris. Elle se trouvait dans une zone de rassemblement après avoir quitté avec des centaines de personnes la zone de Barouz en Syrie, Didier François.
Tout juste sorti de Barouz, au milieu d'une cohorte d'épouses de djihadistes fuyant les bombardements et les combats, elle accorde ses interviews à la presse, trônant en majesté sur une couverture, quand autour d'elle des dizaines de femmes au voile couvert de poussière s'assoient à même le sol avec leurs enfants en famélique. Le prestige de son mari et celui de son beau-frère, qui comptait parmi les Français les plus haut placés dans l'appareil de propagande de l'État islamique, donnent à Dorothée Klein ce statut particulier et à aucun moment elle ne prendra la moindre distance avec leurs engagements, cherchant encore à justifier les attentats de Paris.
On a voulu diaboliser l'État islamique, mais c'est faux. On veut faire croire aux Français, aux citoyens, que ces attentats, c'est faux. Et c'est comme vous, par exemple, si on s'en prend à votre famille, vous voudriez faire justice. Et voilà, bah, c'est triste. La justice a voulu être faite. Je dis juste que voilà, dans des guerres, il y a des innocents. Mais est-ce que vous croyez que c'est équitable entre les attentats Le bilan, oui, je sais qu'il est lourd, mais pas aussi lourd qu'ici. Est-ce que ça vaut tout ça? Parce que là, c'est le monde entier, là. C'est le monde entier qui est contre nous, qui nous massacre.
L'asservissement des femmes yézidis, la crucifixion des chrétiens, les décapitations de Kurdes, les massacres de chiites en Syrie comme en Irak, tout cela la laisse parfaitement indifférente. Seule la navre, le naufrage du califat de Daesh, dont le tout dernier réduit est en train de s'écrouler sous ses yeux.
Didier François, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie.
Carlos Ghosn pourrait sortir de prison dans les heures qui viennent.
Oui, l'ancien patron de Renault-Nissan accusé de malversations financières est derrière les barreaux depuis plus de 3 mois au Japon. Hier, le tribunal de Tokyo a accepté sa remise en liberté, caution fixée à 8 millions d'euros. La somme a été réunie. Écoutez l'avocat de la famille de Carlos Ghosn, François Imré, qui précise que s'il est libéré, Carlos Ghosn sera tout de même très surveillé.
Il sera en résidence surveillée. Il aura un accès beaucoup plus facile à sa famille. Ce qui est certain, c'est que les restrictions sont très grandes quant à la possibilité d'évoquer le fond du dossier, qu'il y aura des caméras, qu'il y aura quand même une surveillance extrêmement forte. Ce n'est pas la liberté totale, loin de là. Mais à côté de ce cauchemar que fut l'incarcération très dure, avec des droits minimes dans cette prison de Kosuge, c'est vécu par lui comme une amélioration sensible. Mais enfin, il pourra mieux préparer sa défense et démontrer son innocence et recouvrer sa dignité, c'est ce à quoi il aspire le plus.
Maître François Imré, joint par Maud Descamps. Laurent Wauquiez va annoncer ce soir 20 nouveaux noms de la liste Les Républicains aux Européennes. Rachida Dati, elle y renonce. L'eurodéputée sortante et maire du 7e arrondissement de Paris ne souhaite pas briguer un nouveau mandat. Elle explique dans les colonnes du Figaro vouloir se consacrer pleinement à Paris. La proposition de loi contre les baffes, gifles et fessées aux enfants arrive au Sénat aujourd'hui. Fin novembre, l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture une proposition de loi Modem visant à interdire les violences éducatives ordinaires à l'encontre des enfants. Et puis l'établissement français du sang lance un appel national aux dons urgents. Une forte baisse des prélèvements a été observée en début d'année, notamment à cause de la grippe et autres virus. Le site dondesang.efs permet de savoir où donner.
Europe 1, il est 6h05.
Mercredi, sortie cinéma avec le mystère Henri Pic d'après le roman de David Fuenquinos.
Et avec au casting Fabrice Lucchini. Le livre a été vendu à 450 000 exemplaires, mais déjà les librairies font du stock en prévision de nouvelles ventes avec évidemment la sortie du film. D'ailleurs, la couverture du livre va changer, Nicolas Caro.
Les éditeurs ne sont pas idiots. Lorsqu'un livre est adapté au cinéma, il s'agit de ne pas laisser passer l'occasion. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, la couverture est remplacée par l'affiche du film. Donc le livre est mis en valeur comme une nouveauté et donc il redécolle. Selon David Fuenquinos, ce n'est pas systématique, mais pour le mystère Henri Pic, c'est déjà bien parti.
Et là, le mystère Henri Pic, on est en grande tournée depuis 2 mois. Je sens que voilà, le livre est re-rentré dans les meilleures ventes 2 ans après sa sortie.
Et les libraires anticipent chez Stanislas Rigaud à Paris. On a prévu le coup.
Systématiquement, ça redécolle. Après, il y a forcément une question d'amplitude, succès et qualité du film. Le mystère d'Henri Pic, qui avait donc déjà fait sa vie, redémarre là. Et par exemple, à la librairie, là, on pense qu'une bonne centaine est tout à fait envisageable, supplémentaire. Donc c'est quand même des chiffres qui ne sont pas anodins.
Et pas la peine d'attendre la sortie du film pour que ça redécolle. Selon un libraire de la FNAC, la seule apparition de Fabrice Lucchini à la télévision pour la promotion a déjà enclenché le redémarrage des ventes. À l'échelle nationale, 50 000 exemplaires sont remis en place dans les librairies.
Nicolas Caro pour Europe 1. Et puis une grande victoire pour le village de Layol dans l'Aveyron. Il va enfin pouvoir déposer son propre nom. Et hier, la cour d'appel de Paris a annulé 20 marques qui s'étaient attribuées le nom. Le village se battait depuis plus de 20 ans pour retrouver ce nom face à un entrepreneur du Val-de-Marne. Il avait déposé la marque pour designer des couteaux, grande tradition de la commune, mais aussi du linge de maison, entre autres.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, à qui je dis discrètement... à tout à l'heure, bébé. C'est toujours bon. Votre mari sera bien au pub avec ses potes pour mater PSG Manchester.
Oui, c'est prévu.
Ouais. Pendant que nous, dans une suite VIP de l'Ibis Budget de la Porte de Pantin, enfin, je ne vous fais pas un dessin, les bookmakers annoncent...
une rencontre ce soir survoltée.
Bon match, Céline.
Europe 1.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
J'aurai ma petite corne de brune. À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Mais tout de suite. Le fact-checking par l'histoire, les amis, c'est extrêmement sérieux. Et ce matin, à quelques heures du coup d'envoi, justement, de PSG Manchester, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire de l'emblème du club parisien. On apprendra notamment pourquoi le berceau qui était brodé sur l'écusson a disparu en 2013.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et Céline, justement, fait un point sur la météo avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Le retour de la pluie?
Oui, c'est vrai, retour de la pluie. Un temps agité, c'est vrai, avec de bonnes pluies, de la pluie et du vent qui va concerner le nord et nord-ouest pour ce matin. On en aura plus au sud, sur les Cévennes, elles seront localement soutenues. Et puis dans l'après-midi, sur les Pyrénées, elles vont gagner, ces pluies, en Aquitaine-Ardennes dans le courant de la journée. Puis le vent va souffler, surtout sur l'ouest, des Pyrénées à Méditerranée, sur le flanc est dans l'après-midi. D'ailleurs, une vigilance orange vient d'arriver par Météo France. Les départements de la Loire, du Rhône sont placés en vigilance orange pour ces vents violents avec un début de phénomène aux alentours de midi. Les températures, elles, sont toujours fraîches ce matin. Très douces cet après-midi puisqu'on a une moyenne de 13 à 22 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Eva, ce soir, vous serez devant le foot, mais vous avez des recommandations. Vous aimeriez que les règles changent?
Alors, pas moi en tout cas, parce que moi j'aime bien le foot, mais si vous n'aimez pas le foot, quelles règles vous aimeriez changer? C'est la question qu'on vous pose
vous
depuis ce matin, 5h.
Et
je connais très bien les règles du foot.
Que vous avez fréquenté
exactement.
Longtemps un arbitre
mais
de
haut niveau. C'est vrai que j'embrasse d'ailleurs. Eh bien, Gecko nous suggère que les équipes féminines puissent être en compétition avec les équipes masculines sans faire sourire ni provoquer le refus des
hommes. Par contre, ce qui serait bien, c'est des équipes mixtes.
Bon, oui, mais c'est peut-être un peu ça qui dit, vous voyez. Ni provoquer le refus des entraîneurs qui invoquent la frustration des garçons battus par les filles. Voilà, vous ne m'avez pas laissé terminer ce message, c'est dommage. Et il y a Sébastien Bordonnaf qui nous dit leur donner le droit d'utiliser le pied gauche.
Qui est cette personne?
Je pense que c'est notre producteur. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le champion qui nous rejoint en studio à présent a grandi en terre d'Ovalie. Une enfance rythmée par le rugby et les succès du Stade Toulousain qui ne l'empêchera pas de vibrer ce soir pour le match de foot PSG-Manchester, même si évidemment, les conseils qu'il pourrait donner aux joueurs, inspirés de son expérience de la mêlée...
Les suçons, ça compte pas.
...pourraient valoir quelques cartons rouges aux Parisiens. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports. À la une, Jérôme, un rêve et un cauchemar.
Le rêve, c'est celui des footballeurs du PSG qui ambitionnent de retrouver 3 ans plus tard les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le cauchemar, c'est celui des Madrilènes du Real, triple tenant du titre. Déjà éliminé, on va y revenir. Le PSG part favori ce soir face à Manchester United. 8e de finale retour au Parc des Princes après un succès 2-0 à l'aller en Angleterre. Mbappé en pleine puissance, absence de Neymar et Cavani palliés face à des mancuniens privés de 10 joueurs, 9 blessés plus Pogba suspendu. Bref, rarement le PSG aura abordé une échéance continentale avec à ce point le vent dans le dos. Mais gare à ne pas se laisser griser, avertit Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du PSG.
Le scénario idéal est que nous montre notre qualité et nous joue confiant, calme, tranquille, et à même côté agressif et comme une équipe. C'est la clé pour moi. On a confiance, mais pas trop de confiance. Nous sommes attentifs, mais nous ne jouons pas avec peur. Nous avons confiance à notre qualité.
Et soirée spéciale sur Europe 1 avec le match en intégralité. Rendez-vous dès 20h.
Et en Espagne, Jérôme, on connaissait la remontada. Le Real Madrid a découvert la...
Là, j'ai encore oublié.
La patatrada.
J'arrive pas à y faire, c'est bizarre.
Mais enfin,
but de l'Ajax, déplorent les journalistes de la radio Cadena Ser. En direct, ils voient impuissant la Maison Blanche qui flanche la Cadena Ser, dont le site internet titre Drama en el Bernabéu. Et oui, parce que les Castillans ont perdu
mais
à domicile.
Vous maîtrisez bien l'espagnol, mon cher Jérôme.
J'ai bossé. Hein. Triple tenant du titre, c'est madrilène. Sorti dès les 8e de finale, largement battu donc à domicile, 4-1 par les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Ce sera une saison sans titre pour le Real, éliminé de toutes les coupes et distancé en championnat d'Espagne. L'Ajax est en quart de finale comme Tottenham, victoire 1-0 des Londoniens à Dortmund, avec notamment un très bon Hugo Lloris dans les buts anglais. La Ligue 1 et la victoire 2-1 de Montpellier à Bordeaux, fin de la 27e journée hier soir. Montpellier 7e, Bordeaux 13e.
On parlait de la Coupe d'Europe de foot, joute continentale en basket aussi hier soir.
Et oui, les filles de Bourges battues d'un petit point en quart de finale aller de l'Euroleague. C'est le plus haut niveau, défaite 66-65 à Sopron en Hongrie. Il faudra gagner vendredi à Bourges pour disputer éventuellement un 3e match décisif. Et puis côté messieurs, en quart de finale aller de l'Eurocoupe, là c'est le 2e échelon continental. Victoire de Villeurbanne, l'équipe dont Tony Parker est propriétaire, 79-75 contre Andorre. 2e match vendredi en Andorre.
On termine Jérôme avec l'histoire du jour.
Mais qu'est-ce qui va se passer? On va se qualifier. C'est ce que chantent ces tout jeunes supporters bretons du petit club de Vitré en Ille-et-Vilaine, leur équipe 4e division. Et la plus petite encore en lice en Coupe de France. Et ce soir, c'est le grand soir, réception du prestigieux FC Nantes. C'est le dernier quart de finale de Coupe de France. C'est un match en retard. Effervescence dans la ville. Et en plus, si les Vitréens gagnent, ce sera le PSG en demi-finale.
Oh là, magnifique. Alors on est avec eux, on est derrière eux. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme, et tout de suite, figurez-vous qu'on continue de parler sport et du PSG, mais côté histoire. Et vous savez avec qui Eva? Vous avez enfin imprimé son nom après 6 mois de collaboration?
C'est ce que m'a dit François d'Almeida.
C'est ça, c'est Fabrice d'Almeida, le monsieur histoire d'Europe 1.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Eva, regardez,
François, ne vous laissez pas déstabiliser.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
Ce matin Fabrice, alors que le PSG prépare son match retour peut-être historique contre Manchester United, on évoque le logo du Paris Saint-Germain, car là aussi c'est toute une histoire.
Bah oui, on a tous en tête le logo du PSG en bleu, blanc, rouge avec la tour Eiffel au centre. Il nous raconte l'histoire du club de la capitale. C'est presque une cocarde, synthèse des couleurs de la ville de Paris, le bleu et le rouge, avec la monarchie, le blanc en 1789. Mais en y regardant de plus près, entre les piliers de la tour Eiffel, on remarque une fleur de lys dorée.
C'est là que l'histoire intervient.
Ben oui, car cette fleur de lys masque depuis 2013 une disparition.
Ah.
Auparavant, pendant 30 ans, le club avait un berceau sous la fleur de lys. Oui, vous regarderez bien les anciens modèles de maillots et de logos. On voyait le berceau avec au-dessus une petite fleur de lys blanche et dessous une date, 1970. C'était la date de transformation du club de Saint-Germain, le stade de Saint-Germain, un club né en 1904 en Paris Saint-Germain à cause d'une éphémère fusion avec le Paris Football Club. Le berceau, c'était le symbole de la ville de Saint-Germain-en-Laye, là où est né en 1638 le roi Louis XIV, le roi Soleil. D'où la fleur de lys qui rappelait cette naissance royale. Et c'est avec ce logo que le PSG a gagné la Coupe des Coupes en 1996, le seul titre européen du club.
Mais donc aujourd'hui, tout ça a disparu.
Ben oui. Après le rachat par le Qatar, en 2013, le logo change. Exit le berceau. Le nouveau propriétaire voulait privilégier la tour Eiffel et Paris écrit en gros en haut. La date, 1970, est supprimée et Saint-Germain écrit en plus petit en bas pour être sans doute éclipsé un jour prochain. La preuve, le logo dessiné par le basketteur Michael Jordan en 2018 le rend encore moins lisible. Pour le Qatar, en somme, si Paris est magique, Saint-Germain ne vaut rien. Curieusement, la fleur de lys est restée. Grossie et même dorée. Alors bien sûr, la fleur de lys, cela dit la France et cela fait chic. Mais n'est-ce pas plutôt une manière subtile d'évoquer la royauté du Qatar, l'émir dans le symbole du roi soleil? Le PSG n'est donc plus seulement le club des dieux du stade, il est celui des rois du sport.
Merci beaucoup Fabrice d'Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'allégresse rieuse, certes, mais aussi de grandes questions d'actu. C'est un fait, entre le mouvement des Gilets jaunes et les marches pour le climat qui se multiplient, un vent de révolte souffle sur la France. Dernier exemple en date, Eva Rock, qui n'hésite plus à signaler son désaccord avec certaines chansons de la playlist d'Europe 1.
On est d'accord pour dire que c'est de la merde, ça.
Oui, alors, que nous dit de la société française ce vent de révolte qui souffle actuellement sur le pays? Est-il amené à durer? Sur quoi peut-il déboucher? Élément de réponse avec l'essayiste et philosophe Cynthia Fleury.
Ah, il est 6h17.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
3 gardes à vue étaient en cours hier soir après l'attentat dans une prison de haute sécurité de l'Orne, retranchée pendant 10 heures après avoir poignardé 2 surveillants. Un radicalisé a été interpellé par le raid, sa compagne est décédée après l'assaut. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Témoignage édifiant sur Europe 1 ce matin, celui de la femme de Jean-Michel Klein, djihadiste français qui avait prêté sa voix à la vidéo de revendication des attentats du 13 novembre et tué en Syrie il y a quelques jours. Elle justifie tous les actes de l'État islamique. Enfin, Ligue des Champions, place ce soir bien sûr au PSG qui doit finir le travail face à Manchester. Hier soir, le Real Madrid, triple tenant du titre, s'est pris une jolie fessée, éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions après sa défaite contre l'Ajax d'Amsterdam, 4-1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 6 mars. L'actualité dans vos journaux, c'est encore et toujours le grand débat. Les gilets jaunes, des marches de jeunes qui se préparent pour le climat, des citoyens qui se mobilisent contre la montée des populismes. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, essayiste. Vous auscultez depuis une dizaine d'années le fonctionnement de la société française. 3 mois seulement se sont écoulés depuis le premier acte des gilets jaunes et déjà une quinzaine d'ouvrages questionnent le mouvement. Journalistes, sociologues, penseurs, chacun essaye de comprendre et d'expliquer le phénomène. Beaucoup ont du mal. On a l'impression que ce mouvement des gilets jaunes, il sort des cases habituelles, qu'il échappe à la grille de lecture classique des mobilisations sociales. Ma première question est donc simple. Est-ce que les philosophes sont aussi embarrassés face au mouvement des Gilets jaunes que nous, les journalistes?
Oui, de toute façon, l'embarras devant le réel, c'est, je dirais, la base d'un bon rapport au réel.
Ah, c'est sain, alors.
Oui, c'est sain, parce que ça montre que, voilà, on essaye de penser le réel dans sa complexité, dans son inédit, et que immédiatement, on ne va pas chercher à le catégoriser selon des anciennes, précisément, catégories qui nous font manquer la différence. Et oui, il y a une manière différente, très clairement, de se mobiliser, même si... dire qu'on ne l'avait pas vu venir est, je pense, insuffisant, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on pose tous les grands invariants qui structurent les gilets jaunes. En revanche, c'est quasiment impossible de dire le déclic. Mais en revanche, de dire et de venir diagnostiquer la marmite, généralement, oui, on l'a fait depuis assez longtemps.
Vous dites « Incontestablement, nous vivons un moment très spécifique de défiance. Lorsque la majorité des gilets jaunes refuse de répondre à l'appel lancé par l'exécutif, s'instaure une équivalence inédite. Dialoguer avec le pouvoir reviendrait à ne parler avec personne, voire à se décrédibiliser. » C'est peut-être ça qui est nouveau dans ce qui se passe. Plus que le dialogue, c'est carrément le respect des institutions démocratiques qui est rompu.
Très clairement, on a une très très grande crise de défiance qui était là, encore une fois, mais jamais à ce point-là formalisé. Donc, si vous voulez, c'est une des premières fois où vous avez quasiment un non systématique et vous avez immédiatement, comme dans les grands mouvements sectaires, celui qui sort un peu pour aller éventuellement dialoguer, simplement dialoguer et immédiatement taxer de socio-traître. Enfin, on entend des vieilles lunes qu'on connaît très très bien dans d'autres types de mouvements idéologiques et qui, en plus, ne renvoient pas spécifiquement en fait à ce qui est le vrai contenu des gilets jaunes, mais on est dans une vraie défiance, une vraie crispation, et qui, encore une fois, on peut le causer. Hein. C'est pas, il y a un phénomène de déconsidération, de sentiment de non prise de soin, de sentiment de déconnexion des élites, de sentiment en gros des perdants et de déclassement de la mondialisation qui fait que petit à petit vous avez des mondes qui se séparent. Et aujourd'hui on est dans une atomisation très très forte du monde commun.
Oui, vous dites qu'il y a plus ce sentiment de communauté de destin, quelque part.
Ça, c'est très, très clair.
Enfin, ça, c'est très grave, parce qu'il n'y a plus ce sens de... Si l'intérêt général ne prévaut plus sur l'intérêt individuel, c'est tout le principe démocratique qui s'effondre.
C'est tout le problème, mais à un moment donné, si vous voulez, quand vous détricotez sans cesse l'État social en considérant que l'État social, le compromis social, c'est simplement superfétatoire par rapport à l'État de droit, ben vous découvrez que non, le cœur de l'État de droit, c'est l'État social.
Le grand débat, Emmanuel Macron qui part dialoguer avec le peuple, c'est la bonne solution, c'est la seule solution, ou alors est-ce qu'il se trompe ?
Non, c'est la seule solution. Après, tout le problème est l'instrumentalisation de cela.
Et oui, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir une forme de campagne à peine
divisée. De fait, et on a raison, je pense aussi d'y voir une campagne.
Et alors, en même temps, s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit qu'il n'a pas dialogué.
Tout à fait, donc c'est pour ça que que ce soit aussi une campagne n'est pas si grave. Que ce soit qu'une campagne sera absolument détestable et profondément inflammable. Et on voit très bien d'ailleurs que le grand débat a créé une sorte de désynchronisation du mouvement, c'est-à-dire que les gilets jaunes sont quand même en attente. Il y a une très très grande présence des gilets jaunes et des Français dans le grand débat. Mais vous avez quasiment aucun protocole scientifique de restitution du grand débat qui est posé. Et donc ça alerte, si j'ose dire, sur le caractère déceptif qui pourrait surgir du grand débat et sur un renouveau insurrectionnel très fort de la part des gilets jaunes qui ont un peu calmé cela ces derniers moments.
Eva Roque.
À côté des gilets jaunes, on a vu aussi des jeunes étudiants français commencer à se mobiliser pour le climat. Ils n'ont même pas 18 ans hein, pour certains. L'engagement, c'est aussi une histoire de génération pour vous ?
Oui, l'engagement, alors ça c'est un point assez essentiel parce que d'abord l'engagement c'est une chose, je pense qu'on a redécouvert quand même un peu le sens de l'engagement. Les gilets jaunes sont les premiers à raconter comment l'engagement leur redonne une estime d'eux-mêmes et leur rappeler que c'est la base du rapport sain au monde. Il faut avoir le sentiment de transformer le monde. Pas que le sentiment, hein. Donc ça c'est absolument déterminant.
Être dans le faire aussi. Hein,
être dans le faire, c'est-à-dire vraiment retrouver sa puissance d'agir, sa puissance de dire, pour exister, mais au sens grand du terme. Donc ça c'est essentiel, et c'est vrai que la nouvelle génération est davantage mobilisée, heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est née, entre guillemets, dans un contexte anthropocénique. Elle a conscience de ça.
Ça veut dire quoi, anthropocénique ?
Anthropocénique, ça veut dire tout simplement qu'elle a conscience que le réchauffement climatique, que le rendez-vous, entre guillemets, avec la nature n'est pas aussi harmonieux que cela. Et que surtout, le contrat social et le contrat naturel, entre guillemets, sont en train, là aussi, de s'opposer très fortement. Et à la différence, si vous voulez, de ma génération, même, on va dire, de la génération précédente, on va dire que la situation dans laquelle arrivent les étudiants aujourd'hui n'est pas un monde clément.
Oui.
Et donc, si vous voulez, ça aide au rapport critique. Hein, l'absence de monde clément fait que très vite, on se dit, tiens, et si on pouvait faire autrement ?
Mais justement, toute dernière question, est-ce que ces deux mouvements, Gilets jaunes et Marche contre le climat, alors c'est une forme d'engagement les deux, mais est-ce que ce n'est pas des engagements qui se cognent finalement, qui ne sont pas, qui ne disent pas la même chose et qui sont quelque part irréconciliables ?
Alors, ils ne sont pas du tout irréconciliables. Dans le fond, ce sont exactement les mêmes mouvements, parce qu'aujourd'hui, dissocier justice sociale et justice environnementale, c'est passer à côté de la vérité de l'enjeu
sur
du 21e siècle.
Sur le fond, évidemment, mais sur la forme,
sur la forme, de fait, il y a des vrais problèmes. Et vous avez le sentiment, en tout cas pour les Gilets jaunes, qu'on s'ajuste sur eux tout d'un coup pour pouvoir penser à un grand problème. Et donc ce sera ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les classes populaires soient au service de ce pacte, entre guillemets, pour le climat.
Merci beaucoup Cynthia Fleury d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes l'auteur des Irremplaçables chez Gallimard. On précise que vous donnerez aussi une conférence à Rennes ce samedi en compagnie d'Hubert Reeves. Quel monde pour demain ? C'est le thème de cette conférence.
Avec les étudiants justement.
Avec les étudiants que vous pourrez suivre sur internet également sur le site www.leschampslibres.fr. Merci.
Europe 1. Mais il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de Sébastien Krebs. La météo revient avec de la pluie.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Mmh. Encore de la douceur aujourd'hui.
13 à 20 degrés sur la moitié nord cet après-midi, avec 15 degrés attendus à Paris. Jusqu'à 20 à Strasbourg, on a un petit degré en ce moment. Pour la moitié sud, 16 à 22 degrés. Les plus hautes sont dans le sud-ouest, hein, puisqu'on aura 22 degrés à Biarritz. En ce moment, c'est là aussi qu'il fait le plus doux. 18 degrés à Biarritz. Par contre, ailleurs, c'est quand même assez frais ce matin. 1 degré à Strasbourg, je vous le disais. 4 à Mulhouse, 5 à Toulon, 7 à Bourges, 8 à Lille, Paris et Bastia. Il en fait 10 à Lyon et 12 à Bordeaux.
Et encore de la pluie.
Oui, dès ce matin, hein, cette nouvelle perturbation ondule sur le pays. Ce matin, on va retrouver ces pluies du Poitou-Charentes, Pays de la Loire, jusqu'aux Hauts-de-France. Elles vont gagner l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne à la mi-journée. Et puis plus au sud, elles concerneront surtout les Pyrénées et les Cévennes. On aura également de la pluie, hein, sur la région Midi-Pyrénées. Les Cévennes, où elles pourraient être soutenues. Pour les autres, c'est un ciel couvert. Et puis, on a le retour du vent également, hein, près des côtes atlantiques, celle de la Manche pour ce matin, sur les Pyrénées, près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône, en remontant jusqu'au Grand Est dans l'après-midi, où là les rafales pourraient être assez violentes. D'ailleurs, la Loire et le Rhône sont placés en vigilance orange pour ces vents violents, avec un début de phénomène à partir de midi.
Merci Céline. À suivre dans moins d'une minute, le journal de Sébastien Krebs.
Europe 1. Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Julien Daucher, vous êtes responsable de l'optimisation des solutions financières pour les caisses d'épargne. Pour le client qui veut gérer lui-même ses placements, vous proposez 3 niveaux d'accompagnement. Lesquels ?
Alors, dans un premier niveau d'accompagnement, nous partageons avec le client notre analyse des marchés financiers et nos recommandations, en l'informant régulièrement. Le deuxième niveau d'accompagnement donne accès au savoir-faire de nos sociétés de gestion spécialisées. Cette variété d'expertise peut permettre au client de se constituer un patrimoine, soit diversifié, soit au contraire très concentré, en fonction de ses choix. Enfin, troisième niveau d'accompagnement, nous mettons à disposition du client un ensemble de portefeuilles ajustés, qui sont des solutions d'investissement combinant plusieurs fonds, et destinés à financer un projet de vie, comme les études de ses enfants ou préparer sa retraite.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, cet enivrant cocktail d'infos et de fantaisie qui aboutit parfois à des choses assez étonnantes, comme hier. En effet, en ce lundi 5 mars, on fêtait l'anniversaire d'MC Solar, un anniversaire qui a permis aux fans d'Evaroc de découvrir une nouvelle facette du talent de leur idole.
Ah oui.
Un don assez unique pour le hip-hop, un flow à la croisée de Diams et Ginette Garcin, écriront les Inrock.
Yo, le rap c'est pas du tout ma cam. Je préfère un son qui a plus d'âme. M-A-2-T au micro, Eva lui fait les gros yeux. Mais rien à faire pour Mathieu, c'est un filou, un mafieux.
Yo !
Comme vous dites, yo, yeah. À suivre, politique, économie, médias, l'analyse de notre fantastique arrive juste après le journal.
Et bientôt un duo avec Laurent Cabrol.
Oh, avec Lolo Cabrol. Yo, Lolo.
Vous oui. Écoutez Europe 1, il est 6h30.
5h07, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Cette fois, peut-on y croire? Le PSG rêve d'un quart de finale de Ligue des Champions. Paris reçoit Manchester United ce soir et devra confirmer son exploit du match aller. Il voulait venger le terroriste du marché de Noël de Strasbourg, le détenu radicalisé qui a poignardé deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe hier et est maintenant hospitalisé, blessé dans l'assaut du raid. Et puis au moment où l'on guette la sortie de prison de Carlos Ghosn, Renault présente sa nouvelle Clio au salon de l'Auto de Genève.
Europe 1.
21h ce soir, 90 minutes au Parc des Princes pour espérer figurer parmi les 8 plus grands clubs européens. Une place en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG en rêve après deux échecs successifs. Ce soir, il faudra confirmer l'exploit du match aller face à Manchester United. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien.
On pourrait se dire que le plus gros est fait après la victoire 2-0 à l'aller, mais il y a toujours ce spectre de la fameuse remontada barcelonaise d'il y a deux ans. Est-ce que cette fois on peut y croire?
Oui, et justement, les Anglais, qui ne sont donc pas favoris, ne se gênent pas pour jouer cette carte déstabilisation psychologique. Le jeune entraîneur norvégien Solskjaer l'a dit hier en conférence d'avant-match. Tout le monde se souvient du résultat de Barcelone. Alors, mission impossible pour nous? Jamais, a-t-il ajouté. Les dirigeants parisiens assurent avoir évacué ce triste soir de mars 2017. Ils ambitionnent de retrouver les quarts de finale après deux éliminations successives en huitième. Les supporters parisiens, eux, n'ont pas oublié, mais ils ne croient pas au bis repetita.
C'était une autre époque, c'était un autre temps. C'est plus le même PSG. Il y a Mbappé au centre et qui en plante deux à chaque match.
Paris, ils vont gagner 3-0.
Manchester peut revenir, croyez-moi, mais on va leur mettre 4-2. C'est fait, c'est signé.
On compte sur eux.
Et il pourra notamment compter sur Kylian Mbappé. 29 buts cette saison, dont 4 en Ligue des Champions. Il est en pleine confiance. Les Mancuniens déplorent, eux, 10 absents. 9 blessés, plus Paul Pogba suspendu. Les Parisiens pourront te compter sur le soutien au moins moral de Neymar, la star blessée, revenue spécialement de sa rééducation au Brésil. Il est attendu dans les tribunes.
Jérôme Lacroix, et on suivra donc ce match ce soir dès 20h sur Europe 1. Match en intégralité, diffusé autour de Lionel Rosso et en public dans notre grand studio. Pierre Belmar, on parlait de remontada, c'est le Real de Madrid qui l'a vécu hier soir, cette remontada. Le Real éliminé, battu 4-1 par l'Ajax d'Amsterdam à domicile.
On en vient à cette attaque terroriste qui a visé deux surveillants hier à la prison de Condé-sur-Sarthe.
3 personnes ont été placées en garde à vue dans cette enquête qui commence. L'assaillant, un détenu radicalisé de 27 ans, a dit vouloir venger Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. On sait maintenant qu'il a crié « Allahu Akbar » en se jetant avec un couteau sur les deux surveillants qu'il a blessé. Il s'est ensuite retranché avec sa compagne dans l'unité familiale de la prison. Salomé Legrand, c'est le raid qui a donné l'assaut au bout de 10 heures.
Oui, quand les forces spécialisées arrivent, la scène est figée. Le détenu et sa compagne se trouvent dans l'unité de vie familiale, mais ils ont des voisins. Un autre couple dont l'homme est aussi soupçonné de radicalisation. Il faut donc d'abord vérifier qu'ils n'ont rien à voir avec les faits, puis les exfiltrer. Ce sera le cas en début d'après-midi. Les négociateurs du raid entrent alors en contact avec le couple retranché via les interphones. S'ensuit une demi-heure de revendication. Le détenu affirme vouloir venger le terroriste de Strasbourg. Il hurle des Allahu Akbar, veut mourir en martyr et affirme même être en possession de ceintures explosives et d'acide sulfurique. Sa compagne, qui prétend elle être enceinte sous une ample djellaba, n'a pas été fouillée à l'entrée au-delà du détecteur de métaux et elle a des fils suspects qui dépassent de ses vêtements. L'intervention, déjà compliquée par les portes sécurisées de la prison, est d'autant plus prudente. Tous les moyens de reconnaissance possibles sont envoyés devant les deux issues du petit appartement. D'après nos informations, les équipes qui ont retrouvé le couple, finalement replié dans la minuscule salle de bain, ont été frappées, je cite, par leur furieuse détermination. Même les messages de leurs proches n'ont eu aucun effet.
Salomé Legrand, et l'assaillant a été blessé pendant l'assaut. Il est maintenant hospitalisé. Sa compagne, elle, a été tuée. Ce matin, le personnel pénitentiaire prévoit de se mobiliser, notamment à la prison de Fleury-Mérogis.
Il est 6h35.
À Grenoble, après 3 nuits de violence, les parents de l'un des deux jeunes morts à scooter appellent au calme. Pas de nouveaux incidents signalés hier soir. Cet après-midi, une marche blanche aura lieu dans le quartier Mistral en soutien aux familles. Les malades de la thyroïde déboutés au tribunal. Plus de 4000 patients avaient attaqué le laboratoire Merck pour défaut d'information après les effets secondaires liés selon eux à la nouvelle formule du lévothyrox. Le procès avait eu lieu en décembre. Le jugement est tombé hier. Le laboratoire n'a commis Aucune faute, estime le tribunal de grande instance de Lyon. Les plaignants sont consternés.
On vit ça comme une gifle, une forte, très forte déception. On avait tellement espoir que ce serait au moins un tout petit peu de reconnaissance pour les malades, pour le fait que tout n'a pas été fait pour bien les informer, pour bien préparer ce changement de médicaments. Mais dans leur position de monopole, ils auraient dû mieux informer les patients.
C'est du mépris pour les victimes, la part de la justice.
Mépris, je ne sais pas, mais un manque d'écoute, on ne les a pas crus. On continue à nier les symptômes, à dire c'est peut-être dans la tête, c'est un effet nocebo parce qu'ils l'ont lu dans le journal. C'est la ménopause. C'est ça la gifle pour les malades. Personne ne les écoute, personne ne les croit. Et la justice dit, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est très décevant, mais on va continuer.
Béate Barthès, la présidente de l'association Vivre sans thyroïde, au micro de Jean-Luc Bougeon.
À suivre dans ce journal, Philippe Devilliers de retour en librairie et il s'attaque à l'Europe. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal, Sébastien Krebs. Il vend généralement beaucoup de livres. Philippe Devilliers est de retour en librairie.
Le souverainiste réfugié au Puy du Fou compte bien faire entendre son message en pleine campagne pour les élections européennes. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, ça c'est le titre. C'est un livre réquisitoire qu'il publie où il tire à boulet rouge sur les fondateurs de l'Union européenne. Adrien Beck l'a lu pour nous.
Philippe Devilliers promettait une bombe, voilà en tout cas un livre éminemment politique. 400 pages, la promesse de révélation sur le grand mensonge avec un M majuscule, comprendre la construction européenne. Dans le viseur de l'ancien eurodéputé conservateur, les pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, présenté au fil des pages comme un banquier sous influence américaine, comme Robert Schuman, tous deux financés par la CIA en échange d'informations sur les pays européens avec un objectif, se débarrasser des États-nations. Déçu par Emmanuel Macron, qu'il avait reçu au Puy du Fou pendant la campagne, Philippe Devilliers, souverainiste convaincu, prédit une victoire à Marine Le Pen au mois de mai prochain, persuadé qu'il ferait un carton s'il se présentait lui-même aux élections européennes. Mais voilà, retiré de la vie politique sans intention d'y revenir. Avec ce nouveau livre, le Vendéen ne semble pas avoir abandonné, loin de là, l'objectif de faire triompher ses idées.
Adrien Beck, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, c'est chez Fayard.
Au Japon, on guette toujours la sortie de prison de Carlos Ghosn.
Ce n'est plus qu'une question de formalité, hein, puisque l'appel déposé par le procureur a été rejeté. L'ancien patron de Renault doit verser une caution de 8 millions d'euros et il sera, une fois dehors, assigné à résidence. Et pendant ce temps, Renault présente à Genève sa nouvelle Clio. Énorme enjeu pour le constructeur, puisque c'est la voiture française qui se vend le plus dans le monde. Jean-Sébastien Soldaini.
Vu de l'extérieur, Renault ne prend aucun risque. La ligne de la Clio ne change quasiment pas, mais une fois installée au volant, Frédéric Clermont, directeur de gamme, affirme que l'on y est plus à l'aise que dans les modèles précédents.
Le paradoxe, c'est que la voiture est un peu plus compacte, elle est un peu plus basse de 8 mm, elle est un peu plus courte également de 11 mm, mais malgré tout, effectivement, on a gagné de l'habitabilité intérieure en travaillant en particulier sur la planche de bord, et effectivement, on a rendu des centimètres aux genoux des occupants avant et aussi arrière. On gagne par exemple 2,5 cm pour les genoux à l'arrière.
La Clio, c'est le cœur du business Renault, voiture française la plus vendue dans le monde. Interdiction donc de faire un flop. Thierry Bolloré, le directeur de la marque, rejoue presque les vieux slogans. Clio aurait tout d'une grande.
C'est notre marque de fabrique de rendre ce côté premium réellement perceptible, parce que vous avez vu l'intérieur. L'intérieur est devenu un intérieur premium. Si vous regardez l'extérieur, c'est exactement pareil. On est tout à fait dans les mêmes critères que le premium en termes de qualité de réalisation. Mais nous, notre marque de fabrique chez Renault, c'est de le rendre accessible.
Le prix n'est pas encore connu pour pouvoir aussi bénéficier d'une caméra 360 degrés et d'un large écran tactile vertical. Genève, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Au salon de l'automobile, donc, qui ouvre ses portes demain au public.
Merci, c'était le journal de Sébastien Krebs. Sébastien, journaliste de terrain, qui était la semaine dernière au Venezuela, pays où nous a-t-il confié hors antenne. Il a eu chaud, limite il frimait un peu. Je l'ai rapidement remis à sa place en lui expliquant que moi aussi, hein, j'étais un journaliste de terrain et que moi aussi, la semaine dernière, j'avais eu chaud. Bon. Pas tout à fait dans les mêmes circonstances.
T'es bronzé aussi, Seb, hein ?
J'étais il y a un petit moment, mais je suis reparti pour le boulot au Venezuela, donc il y avait un peu de soleil.
Où ? Au ski ? Ah non, Venezuela.
Et après, je suis allé à Caracas. À Caracas, ça allait, mais à la frontière, c'était chaud, ouais.
Parce que moi, j'ai eu très chaud au ski aussi, j'ai skié en t-shirt. Ce off étant vraiment humiliant pour moi, je propose qu'on passe tout de suite à la météo, Céline.
Oui.
Sans commentaire.
Ah non, mais vraiment. Et on parle encore de température. Ah
ouais. Des températures.
Décidément.
Je suis chaud encore. Encore très doux, ces
oui,
températures.
Oui, c'est vrai. Il va faire chaud d'ailleurs à Biarritz, hein, puisqu'on aura 22 degrés cet après-midi. Il en fait déjà 18 en ce moment. 13 à 22 degrés, c'est la moyenne du nord au sud. Côté ciel, retour de la pluie sur le nord et nord-ouest ce matin. matin avec des landes aux Ardennes, de la pluie aussi pour cet après-midi. De bonnes pluies également sur les Cévennes et les Pyrénées, puis du vent qui va souffler fort sur les Pyrénées jusqu'à 120 km/h sur les cimes. Retour du vent également près de la Méditerranée et puis dans la vallée du Rhône avec deux départements qui sont placés en vigilance par Météo France pour ces vents violents, la Loire et le Rhône.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, à suivre. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques vous aident à vous forger une opinion originale sur l'actu. Au programme aujourd'hui, c'est Français qui figure dans la liste des plus grandes fortunes au classement Forbes et la taxe sur les GAFA qui contredit un peu le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe.
Il est 6h42. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Trois personnes en garde à vue après l'attaque terroriste de la prison de Condé-sur-Sarthe. L'assaillant, un détenu radicalisé, est lui hospitalisé. Il a été blessé dans l'assaut du raid. Sa compagne, avec qui il s'était retranché, a été tuée. La France va taxer les géants du net. Le projet de loi créant une taxe sur les GAFA sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle prévoit de prélever 3% de leur chiffre d'affaires. Enfin, coup de théâtre en Ligue des Champions. Le Real Madrid, triple tenant du titre, a été éliminé en 8e de finale, battu à domicile hier soir par l'Ajax d'Amsterdam 4-1. Première fois que le Real est éliminé avant les demi-finales depuis 2010. Et ce soir, on suivra bien évidemment PSG Manchester United, 21h au Parc des Princes. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure est venue d'accueillir le plus impressionnant triumvirat que la Terre ait connu depuis César, Pompée et Crassus. On les appelle les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et, pour l'économie et l'humour, l'impayable Emmanuel Dutheil.
Pourquoi ça ne roule plus pour les salons de l'auto ? Ben voilà.
Oui, alors Mickaël Darmon, on va plutôt commencer par la politique. Hein,
on va essayer, ouais.
Quitte à choisir. Bruno Le Maire présente aujourd'hui au Parlement la taxe sur les GAFA, hein, on le disait. Une demande qui existait depuis plusieurs mois et qui apparaît aussi dans les contributions du grand débat. Mais est-ce que c'est en phase avec le projet européen publié par le président de la République ?
Alors GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple bien sûr, les géants du numérique, sans attendre son adoption au niveau européen, effectivement le gouvernement français veut la faire donc adopter en France. Donc la France fait figure de pionnier, pas étonnant hein, quand on est en France, on est toujours créatif pour la fiscalité. Donc les chiffres d'affaires, on le sait, sont très importants. En 2017 par exemple, Google a réalisé plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et la taxe serait à 3% justement sur ce chiffre d'affaires. Le problème est que cette initiative française vient en contradiction avec l'approche européenne et celle de l'OCDE, vous savez, l'Organisation de coopération et développement économique qui évalue les politiques publiques dans le monde entier. La question, quel est le meilleur périmètre pour une telle taxe ? L'OCDE préconise d'imposer le résultat des entreprises plutôt que le chiffre d'affaires. Or, les GAFA sont installées dans des pays où elles échappent à l'impôt. On est donc loin d'un accord sur le sujet. L'Allemagne, par exemple, est réticente à une telle taxe, mais du côté de Bercy, on pointe 6 pays prêts donc à suivre la France. Cette taxe GAFA française montre que l'Europe fiscale n'existe pas. Pour obtenir une décision européenne, il faut changer de mode de vote en Europe et la règle d'unanimité bloque tout. Il suffit donc un seul veto pour tout arrêter. Donc au moment où Emmanuel Macron diffuse son projet européen dans tous les pays, eh bien cette taxe GAFA montre que le poids des intérêts nationaux reste encore très fort.
Mais ce que vous nous dites, c'est que cette taxe sur les GAFA répond plus à des objectifs de politique intérieure.
Bruno Le Maire a mis cette idée sur la table après le 10 décembre, après l'annonce par Emmanuel Macron des 10 milliards donc par le président. Le ministre avait, avec les députés de la Commission des Finances avaient placé donc cette taxe au sommet de l'agenda pour remplir les caisses de l'État. Pourquoi Amazon paierait moins d'impôts qu'une boulangerie ? C'est l'argument en permanence mis en avant par le ministre. C'est aussi un levier politique pour Bruno Le Maire. S'il a discrètement envisagé, hein, savez-vous, de briguer un temps un poste de commissaire européen, eh bien aujourd'hui il a renoncé depuis quelques mois. Il envoie des signaux au pôle social-démocrate de la majorité dans une éventuelle perspective d'une inflexion plus sociale du gouvernement. Bruno Le Maire, on s'en souvient, avait rejoint En Marche au début du mandat d'Emmanuel Macron. C'était après la réforme de l'ISF. Et avec la taxe sur les GAFA, eh bien, il cherche à se constituer un capital politique pour jouer un nouveau rôle dans l'acte 2 du quinquennat.
Merci Mickaël Darmon. On précise que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité d'Europe 1 tout à l'heure à 8h15 au micro d'Audrey Crespo-Marin. On passe à l'économie. Ce matin, on parle gros sous avec vous, Emmanuel Dutheil. Forbes a sorti hier son traditionnel classement des plus grosses fortunes au monde. Et une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par le classement des plus riches, mais par la plus jeune milliardaire de l'histoire.
Oui, elle est américaine. Elle a seulement 21 ans et une fortune estimée à un tout petit peu plus d'1 milliard de dollars. Elle s'appelle Kylie Jenner. Alors si vous êtes fan de télé télé-réalité et de la famille Kardashian.
Je vais enfin savoir qui c'est.
Voilà, vous la connaissez sûrement, donc je suis en train de déduire que vous ne savez
non,
pas du tout
pas
qui
du
peut
tout.
Être Kylie Jenner. Et ben, c'est une des demi-sœurs de la star de la télé-réalité, Kim Kardashian. On l'a aussi découvert dans cette série. Hein. Alors, je rappelle le concept où les Kardashians, c'est passionnant, filment leur quotidien. Mais Kylie Jenner, elle, ne fait pas que cela. Elle est aussi chef d'entreprise. Elle a créé notamment une marque de cosmétiques qui cartonne notamment auprès des jeunes. Et c'est ça qui lui permet d'entrer dans ce classement des milliardaires. Et ça lui permet même de faire mieux que Mark Zuckerberg,
non.
le fondateur de Facebook. Parce que lui, il a dû attendre 23 ans pour
rentrer.
Ah bah oui, bah il est quand même un peu plus
riche.
Plus
riche oui.
Mais il a dû attendre 23 ans pour rentrer.
En 23 ans, oh le loser.
Bah ouais.
Au-delà de ce record, qui sont les plus riches dans le monde?
Eh bien, petite déception parce que le classement ne bouge pas beaucoup. C'est toujours Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est la plus grosse fortune du monde.
Malgré son divorce,
mais il n'a pas encore divorcé.
Ah oui, c'est pour ça.
Mais il a toujours 131 milliards de dollars en poche. Il devance Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et le financier américain Warren Buffett. Le premier français. Et quatrième, c'est
Bernard Arnault.
Bravo, ça suit, merci Eva. C'est le fondateur du groupe de luxe LVMH. Le Mexicain Carlos Slim est lui cinquième après avoir fait fortune dans les télécoms. On trouve très très peu d'Européens dans les 20 premiers. Ils sont 3 pour être exact. Donc je vous ai déjà donné Bernard Arnault. Il en reste 2 à trouver. Amancio Ortega, c'est le très discret patron de Zara qui lui se classe à la 6e place. Et si on regarde à la 15e place, on a Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt. Et au passage, elle reprend le titre de la femme la plus riche du monde.
Et Forbes a aussi publié la liste des milliardaires français. Est-ce qu'il y a des surprises là?
Alors déjà, ils sont 37. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a d'illustres inconnus, en tout cas du grand public, dans ce classement. Si on passe les Arnaud, Bettencourt, Pinault, Dassault, enfin bon, toujours les mêmes. Je vais reprendre, allez, tiens, au hasard. La 10e de la liste, elle s'appelle Carrie Perraudeau. Vous savez qui c'est? Jamais entendu parler. Eh bien, sa famille est à la tête d'une grosse société franco-anglaise de pétrole et de gaz. Même si je vous dis Michel Leclerc. Alors, c'est peut-être un petit peu plus simple.
Ah, mais rien à voir avec les supermarchés.
Rien à voir. Il y a un cul là à la fin pour Michel Leclerc. C'est le fondateur de Decathlon.
Ah oui,
oui. Eh ben, donc lui, il se classe 16e dans ce classement. Si je regarde également à la 20e place, si je vous dis Nicolas Puech. Ça vous dit quelque chose?
Eh ben,
c'est un des héritiers de la saga Hermès. Deux places plus loin, Anne Beaufour.
Aucune idée,
bah bravo. Elle, c'est l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Ipsen. Bref, vous le voyez, on trouve surtout beaucoup d'héritiers dans ce classement. La chute la plus remarquée, là il est très connu, c'est celle de Xavier Niel. Il perd 10 places. Bon, la raison est toute simple, hein, l'action Free s'est effondrée l'an dernier. Mais au global, pas d'inquiétude selon Forbes. Il y a deux tendances qui se dégagent en France. Le club des ultra-riches s'étoffe et leur fortune a continué à croître.
Ah oui, donc la lutte contre les inégalités n'est pas encore gagnée.
Ben c'est ça, j'avais peur que vous inquiétiez
que vous nous dites. Que je m'inquiète pour eux, je m'inquiète pas trop. Justement, Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir pour
décompresser? Écoutez, sincèrement, ce soir, à chacun ses goûts, à la télé, fiction, jeu, documentaire ou magazine, l'épisode 5 de Top Chef va avoir de la concurrence. Alors avec notamment le match PSG-Manchester qui est à voir sur RMC Sport, la grande librairie sur France 5 ou encore le spectacle Madame Foresti sur TMC, spectacle ultra rythmé et hilarant.
T'en connais des mamans calmes? Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elles crient jamais, elles courent jamais. Putain, mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir. J'ai construit ma vie là-dessus.
Alors, si vous aimez Florence Foresti, je vous conseille de regarder sur YouTube sa parodie de la série de la Servante Écarlate, comme je vous en parlais à 5h45. Et puis, autre conseil du soir, c'est sur Canal+, que ça se passe, documentaire étonnant et détonnant. Ça s'appelle Ni juge, ni soumise.
Ah oui.
C'est un film récompensé notamment,
César,
exactement, par un César il y a quelques jours, réalisé par l'équipe d'une émission de télé mythique, ouais. Striptease. Les réalisateurs Jean Libon et Yves Inan suivent une juge belge, Anne Gruvets, qui reprend une enquête sur l'assassinat de deux prostituées dans le centre de Bruxelles.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration, je le fais immédiatement.
Mais non, je ne peux pas.
Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer. Ensuite, vous plaquez au sol.
C'est une tranche de vie exceptionnelle qui est portée par ce personnage, donc la fameuse juge, qui est sortie tout droit d'un film de Jacques Tati.
Ah oui.
Et une plongée
et
dans un univers...
Juge.
Pardon ?
Qui est une vraie juge. Hein.
Qui
c'est
est
pas
une vraie juge, oui, tout à fait. Plongée dans un univers où le sordide, quand même, hein, côtoie aussi l'humour. Il n'y a pas de commentaires, aucune interview face caméra. Hein. C'est la marque de fabrique de l'équipe de Striptease. Et c'est à voir sur Canal+, à 21h.
Merci beaucoup, Eva Roque, pour ces conseils télé. Merci Emmanuel Duteil, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart. Appelez, messieurs.
Europe 1. 5h-7h sur Europe 1, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à sa fin, l'heure du passage de flambeau approche. Le débrief du 7-9 d'Europe 1 aussi. Quelle secrète star nous réservait la matinale d'hier ? Hors micro, les vedettes de la radio comme Céline Dacosta sont en effet souvent plus prolixes. Pour peu qu'un sujet d'actu les interpelle, comme hier, la multiplication des rats à Paris.
Moi j'ai roulé sur un rat en partant bosser le matin.
Il était énorme, j'en dis, c'était pas un ragondin.
C'était peut-être un ragondin. Le meilleur est à venir, les coulisses de la matinale d'Europe 1 à suivre.
Il est 6h53. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Oui, Céline Debout, les copains se terminent, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Pierre de Villeneuve, le joker de Nico Salegas, qui cette semaine est un peu dans la position du prof remplaçant qui débarque en ZEP avec ses idéaux, ses rêves, et qui se retrouve confronté à la réalité d'élèves parfois turbulents, voire intenables. Là, on pense inévitablement à l'élève Laurent Cabrol, qui redouble sa matinale depuis 30 ans. Face à lui, le prude Vino était comme Michel Pfeiffer dans Esprit Rebelle, il ne savait pas comment le manœuvrer.
Demain, c'est la moitié nord qui va trinquer avec l'arrivée d'une zone de pluie, mes amis. Calme-toi Cabrol, ça sert à rien, ça sert à rien de t'énerver, ça sert à rien de t'énerver, et c'est il pleuvra, voilà.
Merci Laurent Cabrol, on vous retrouve tout à l'heure, juste avant 9h.
Il n'a pas été formé pour faire le gendarme, Pierre de Villeneuve. Il ne sait pas gérer les élèves turbulents. Même Céline Dacosta, qu'on lui avait présentée comme une élève appliquée, studieuse, il constatait qu'elle n'écoutait rien dans les journaux, poussant l'insolent jusqu'à écouter sa musique durant l'édito géopolitique de Vincent Hervouette, preuve qu'elle ne respecte vraiment rien. Alors oui, Villeneuve, je compatis. C'est dur pour un jeune prof de se retrouver propulsé avec des olibrius de cet acabit. Mais là, la solution, c'est pas de vous braquer. Vous ne les changerez pas. Ce qu'il faut faire, c'est tâcher de comprendre leur langue. Le Cabrol, par exemple, oui, est une langue fascinante. Dans un premier temps, on n'y comprend rien, et c'est là que c'est fort, dans un deuxième temps, non plus. Non. Mais il faut persévérer, Villeneuve.
Il y a une grosse perturbation qui est en mer, alors de temps en temps, elle nous envoie une bouffée, comme ça, allez, poup, poup.
Elle nous envoie une bouffée tup-tup. Qu'a voulu dire Lolo par là ? On ne sait pas, mais c'est notre devoir que de chercher. Et ne pas le laisser seul dans son monde. Bref, mon cher Vino, en un mot commençant, il faut vous décoincer. Hier, hors antenne, Céline vous a proposé une solution. Vous n'aviez pas l'air de dire non.
Il nous faudrait un petit peu de cannabis thérapeutique, Pierre.
Je chouffe.
Un petit pétard.
Oh, bah tiens.
Voilà, Pierre, vous êtes sur le bon chemin. Je vous laisse. Oui, Céline ?
Un petit pétard.
Non, sans façon, jamais avant le petit déjeuner.
Merci pour ce petit déjeuner en fumée, mon cher Mathieu Noël.
Bonne journée, Pierre.
À demain.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.